Seigneur, pour sa présence, pour tout ce qu'il nous apporte, pour le sacrifice accompli à la croix il y a 2000 ans. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est le plus grand événement du monde parce que ça transforme l'être de l'intérieur. Amen.
Amen.
On va continuer notre méditation sur... il va y avoir une petite diapo. Ouais. Qui est toute prête. La semaine dernière, nous avions médité sur le projet extraordinaire dans lequel nous sommes actuellement. Nous vivons ce qu'on appelle l'année de grâce. Ou si quelqu'un... Alors, normalement, tu as juste à cliquer et avancer. Voilà, c'est ça. Voilà, et on s'était rappelé la semaine dernière qu'on vit un temps extraordinaire. C'est que sous l'ancienne alliance, les hommes pouvaient s'attendre à l'intervention de Dieu. Amen.
Amen.
Si mon peuple s'humilie, c'est notre méditation depuis des mois, si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, alors je l'exaucerai des cieux. Alors il y a l'exaucement, et ça c'est une grâce de Dieu extraordinaire. Mais sous la nouvelle alliance, nous avons quelque chose de plus extraordinaire, c'est que nous n'avons pas seulement un Dieu qui est avec nous, mais nous avons un Dieu qui...
En
nous. Celui qui croira en moi, dit Jésus, des fleuves d'eau vive couleront de son sein et jailliront jusque dans la vie éternelle. Et ça, c'est une chose, mais extraordinaire. Extraordinaire. Je ne sais pas si on mesure. Et alors, on a pris le temps, justement, la semaine dernière, de voir tous les passages où la parole de Dieu, nous, chrétiens, nous qui confessons le nom de Jésus, nous qui croyons à la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous qui croyons au Saint-Esprit, alors nous avons lu quelques passages qui nous demandent d'être remplis. Et alors, je rappelle ici de quoi tous ces passages nous invitent à être remplis. Remplis de paix, remplis de joie, remplis de consolation, remplis de connaissance de sa personne, remplis de bonne disposition, remplis d'espérance, remplis de la connaissance de sa volonté, remplis d'amour, remplis de son esprit, remplis de force, remplis de sagesse. C'est extraordinaire quand même, non ? Je sais que vous êtes bouche bée quand vous écoutez tout ça. Mais c'est quand même un trésor incroyable. Alors, on pourrait se dire vraiment, Seigneur, on est vraiment des enfants comblés, gâtés. Mais, si le Seigneur nous appelle à vivre ces choses-là, et encore ce matin-là, je voudrais interpeller ceux qui entendent ces mots-là et qui ne les vivent pas encore complètement. Tout ce qu'on vient de dire là, être rempli de paix, de consolation, de grâce, de connaissance de sa volonté, être rempli d'espérance, etc., être rempli de sa présence, ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas des tournures de phrases, c'est une réalité que nous sommes tous appelés à vivre. Amis, si vous ne connaissez pas cette réalité comme quelque chose de réel, d'expérimenté, alors je vous invite vraiment à chercher la face de Dieu. Je vous invite, peut-être qu'il y a une nécessité de se repentir de péché, de vous convertir, de prendre la résolution de vous tourner vers Dieu. Peut-être s'il y a un manque de lâcher prise qui fait que l'Esprit de Dieu n'a pas cette facilité à faire de vous une nouvelle création, une nouvelle naissance. Mais il y a tout à gagner, mes bien-aimés, à nous abandonner et à réaliser que ce que le Seigneur vous offre là, c'est la meilleure des vies. Une vie qui éternelle qui commence ici-bas. C'est ce que dit Jésus. Le royaume de Dieu, vous l'avez, il est au milieu de vous. La vie éternelle, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Pour ceux qui le reçoivent, et cette vie jaillissante apporte toutes ces richesses spirituelles. Et alors c'est vrai, Dieu n'est pas celui qui veut nous amener à être des enfants gâtés. Et là, ça va être l'image d'après. C'est que ce que Dieu nous a donné là n'est pas fait pour que nous le gardions égoïstement. Si mon peuple, et là on peut lire ensemble Actes chapitre 1 verset 8, un verset qui est connu pour plusieurs, mais une des promesses que Jésus a faites, on peut même lire à partir du verset 6. Les apôtres réunis demandèrent à Jésus: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il répondit: ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais, au-delà de toutes vos considérations, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est pas le moment, est-ce que les prophéties vont s'accomplir, est-ce que ça va pas s'accomplir, est-ce que c'est à ce moment-là que le royaume... Mais, laissez tomber tout ça, c'est pas ça l'essentiel, mais ce qui est essentiel: vous recevrez une puissance le Saint-Esprit, ce dont on a parlé, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans la Judée, qui représente en fait la région de Jérusalem, dans la Samarie, qui représente là un peu plus loin, tout à l'heure c'est le département, là c'est la région, et jusque aux extrémités de la terre. Et la semaine dernière, donc, on avait médité ça. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, c'est ce dont on a parlé, cette puissance intérieure. Non pas une puissance de spectacle, mais une puissance de l'intérieur. Et vous serez mes témoins. Bien sûr, Jésus aurait très bien pu s'arrêter là. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et finir là. C'est déjà pas mal. Vous êtes un peuple, vous avez choisi Jésus, vous êtes repenti, je vais transformer vos vies et vous serez rempli d'une puissance extraordinaire, comblé. Pire qu'un enfant le 25 décembre. Mais cette puissance a une vocation. Ce que le Seigneur nous communique, cette paix, cette joie, cet amour, cette consolation, cette connaissance de sa personne, la connaissance de sa volonté, ce discernement, a une vocation qui est celui « et vous serez mes témoins ». C'est quoi un témoin ? Qu'est-ce que c'est qu'un témoin ? Un témoin, c'est celui qui a vu quelque chose et qui en parle. C'est ça ? C'est ça être un témoin. C'est celui qui va dire ce qu'il a vu. Un jour, on a arrêté Pierre et Jean et on les a interdits de parler au nom de Jésus. Arrêtez, hein. On veut plus que vous parliez de Jésus. Il y en a marre avec vos histoires. Tenez, si ça suffit pas, on va vous donner des coups de fouet. Ils se sont dit, mais on ne peut pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. C'était des témoins. Au sens où ils disaient, non pas, ils ne faisaient pas des prédications. Ils n'étaient pas témoins au sens où ils étaient des pasteurs. Ce n'est pas des témoins au sens où ils étaient en train d'être dans l'évangélisation. Ce n'est pas du tout ça que je voudrais vraiment laisser sur votre cœur ce matin. Mais la vocation que Dieu nous a donnée, ce n'est pas d'être des évangélistes. Ce n'est pas de faire de l'évangélisation. Mais c'est d'être témoins. Raconter ce que Dieu a fait. Raconter ce que l'on a vu des miracles de Dieu, ce qu'on a vu dans la transformation des autres. Raconter ce qui s'est passé personnellement. Moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Il n'est pas question d'être des théologiens, d'être super évangélistes en la matière, mais de dire. Ce matin, le désir de mon cœur, ce n'est absolument pas de vous mettre la pression en vous disant « il faut que vous évangélisiez ». Ça n'a pas de sens. Mais ce que je voudrais mettre sur votre cœur, c'est vous donner cette conscience, cette confiance, pardonnez-moi, c'est le mot « confiance » que je voulais dire, c'est de vous communiquer la confiance de parler de Jésus, de témoigner, de dire tout simplement ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé dans ma vie. Et c'est pourquoi on ne peut pas aborder ce thème-là, être témoin, sans avoir abordé la question d'avant. Parce que si dans notre cœur, il y a cette vie, si dans notre cœur, il y a cette joie, si dans notre père, dans notre cœur, il y a ce ressourcement que l'on trouve chaque matin, si dans notre relation avec Dieu, on sait ce que c'est que d'être visité, que d'être touché, si malgré les difficultés, comme on l'a chanté, on peut connaître cette paix, cette grâce, cette force surnaturelle dans notre être intérieur, alors on peut en parler simplement. C'est vrai qu'il est difficile de parler de ce qu'on n'a pas vécu. C'est vrai que c'est difficile de parler avec engouement de quelque chose qu'on n'a pas vraiment vécu. Mais dès que c'est du vécu, alors on sera comme Pierre et Jean. Mais je ne peux pas ne pas parler de ce que j'ai vu et entendu. Discuter avec un fan de foot qui a eu un match la veille. De quoi il va vous parler ? Du foot. Parce qu'il ne peut pas ne pas parler de sa passion. Et on pourrait énumérer tous les exemples. Mais nous, nous sommes passionnés par qui ? Par Jésus. Et c'est pas un match par semaine qu'on a droit, nous. C'est chaque matin que l'Éternel renouvelle. Ses pensées, ses grâces, ses émotions, son caractère. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, oui, témoigner, parler de Jésus, il n'y a pas de savoir-faire, il n'y a pas de technique. Mais je dirais essentiellement que c'est un savoir-vivre avec le Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux mettre... J'ai oublié les diapos. C'est parler de notre vécu. Tu veux aller avec les autres enfants ? Vas-y. une mission qui est à notre portée. Certains peuvent se dire, mais et je le sais, en parlant de témoignage, d'évangélisation, ça peut réveiller comme des craintes, comme des douleurs. Ça peut réveiller des frustrations, des déceptions. Parce que certains regardent au résultat, se disent, mais j'ai déjà parlé du Seigneur. J'ai essayé, moi, d'inviter les gens à l'église, mais ils veulent pas venir, c'est laborieux, j'étais déçu. Plus d'une fois, j'essaye, et puis maintenant, j'ai arrêté parce que... Il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de résultat. Alors ça, c'est la première technique du diable. Eh oui. Parce que quel est l'objectif du témoin? Est-ce que c'est de parler de Jésus? Ou est-ce que c'est d'inviter les gens à l'église? Vous voyez la nuance? Le Seigneur ne nous a pas fait de nous des invitateurs à venir à des réunions. Il nous a invités à témoigner, à parler. Et voyez la différence? Le Seigneur nous invite non pas à dire il faut venir à l'église. Là, c'est lui qui va le faire. C'est dans le désir des cœurs que ça va mûrir. Mais il nous a appelés à parler de lui, à expliquer ce qu'on a fait, ce qu'on a vécu avec lui. Et bien souvent, des gens sont arrêtés, culpabilisés, retenus, découragés dans leur témoignage, parce qu'ils ne considèrent pas leur témoignage comme une manière de parler, comme une vocation à parler, mais comme une invitation, un appel à inviter. Et c'est deux choses complètement différentes. Nous sommes appelés à parler. Et vous allez vous rendre compte tout à l'heure qu'il y a plein de vertus à témoigner. Certains vont regarder à leurs compétences, à leur savoir-faire. « Oh, mais moi, je ne parle pas très bien. » Ah oui, mais moi, tu sais, j'ai l'impression que quand j'explique quelque chose, j'ai l'impression que j'embrouille plus les gens qu'autre chose. Mais c'est pas grave, parce qu'au-delà des mots, les gens sentent ce que l'on vit. Ça va dans les deux sens d'ailleurs. On peut parler aux gens, vous savez, Dieu il est amour, il est grâce, il est merveilleux. Mais quand on connaît les gens un peu de l'intérieur, on se dit oh oh oh. Toi, tu as des mots qui sortent, mais tout le reste de ton corps parle, dit un autre message. Mais même si on est embrouillé, même si on est empêtré, même si on ne connaît pas bien la parole de Dieu, si on vit quelque chose avec le Seigneur, ce qui sortira de notre cœur sera forcément quelque chose de vrai et qui touchera les cœurs et qui touchera la conscience des gens. Même si les gens ne vous applaudissent pas, même si les gens se moquent de vous, ça fait partie de la vie normale. On le lira tout à l'heure. Jésus nous a appelés à être comme des agneaux au milieu des loups, donc c'est tout à fait normal. Mais ne perdons pas notre priorité. Notre priorité, c'est de parler de Jésus, être témoin, dire « Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. Moi, j'aimerais te faire partager l'espérance que j'ai dans mon cœur. T'es malade, mais tu sais, moi, j'ai entendu dire que Jésus, il guérit. » Et c'est ainsi que l'on est témoin. On raconte, on dit ce que Jésus a fait dans nos vies, ce que Jésus a pu faire dans la vie des autres, ce que Jésus peut faire dans les vies et dans les cœurs. La première priorité dans la mission qui est à notre portée, ce n'est pas de fixer notre attention sur les résultats, mais la première priorité sur laquelle nous devons vraiment nous coller, c'est garder une vie de relation avec le Seigneur. C'est ça le plus important. Je le dis, pardonnez-moi, j'espère que vous comprenez cette utilisation du langage. Le Seigneur ne nous a pas appelés à évangéliser. Il n'a pas fait de nous des racoleurs. Il n'est pas là en train de rentrer dans une logique de comment on appelle ça là, j'ai oublié le mot là qu'on utilise. On n'est pas en train de racoler les gens, mais on est là pour témoigner, pour parler, pour annoncer, pour dire, pour faire connaître, pour annoncer. Et c'est ça que nous devons faire. Et ça, pour qu'on ait cette facilité, cette spontanéité, cette légèreté, eh bien, il faut que ça coule en nous. Notre première priorité, c'est notre relation avec lui. D'un point de vue pratique, la mission, elle est vraiment à notre portée. Elle est vraiment accessible. Vous connaissez la série Mission Impossible, hein? Bon, mais avec Jésus, il n'y a pas de mission impossible. Il nous a donné des missions que possibles. Que possibles. Étant donné que notre objectif n'est pas d'inviter des gens, mais de parler de lui, alors faisons ce qui est en notre pouvoir. On peut inviter une personne à venir prendre le café à la maison, tout simplement. Est-ce que cela est impossible? Est-ce que cela est impossible d'inviter notre voisin régulièrement, notre voisine? Et puis dans la conversation, on parlera du Seigneur, à l'image du passionné de foot qui parlera spontanément de foot, même si l'autre ça n'intéresse pas du tout, hein, vous inquiétez pas, ils vont pas s'interroger si vous êtes intéressé par le foot, ils vont vous parler de foot. Nous c'est pareil. Si on est passionné de Jésus, si Jésus est débordant, si on est rempli de tout ce qu'on a vu, mais ça sortira naturellement dans la conversation. Il y a un slogan, enfin, on l'appelait comme ça, le défi un pour un, où chaque chrétien pourrait s'engager à dire, Seigneur, je veux gagner une âme pour toi cette année. Un, une personne, une âme. Est-ce une mission impossible? Dire, Seigneur, dans mes prières, je vais penser à cette personne. Lorsqu'il y aura des occasions de l'inviter au rassemblement, je l'inviterai. Quand il y aura, je prendrai le temps de lui rendre visite, de prendre le temps de prier avec elle si elle veut. Je vais prendre vraiment soin de faire connaître à cette personne qui est Jésus. Je veux vraiment lui témoigner de ce que Jésus a fait dans ma vie. Et je voudrais tellement qu'elle aussi, elle puisse réaliser tout le bienfait, tout le bonheur qu'il y a et toute la nécessité. Parce que c'est une question de salut aussi, hein. Et la nécessité que cette personne-là se fixer un objectif, une personne, sur l'année. Et l'année prochaine, nous serons deux fois plus. Mais c'est surtout au ciel qu'on sera deux fois plus. On peut aussi faire des sortes... Alors c'est ce qu'on organise dans le cadre de l'église avec des cellules de maison, mais on peut s'imaginer aussi, se dire, tiens, je vais inviter des frères, des sœurs à venir à la maison, et puis je vais aussi inviter des amis, des inconvertis. Comme ça, dans la conversation... Même si moi je ne suis pas très facile à parler, même si je suis un peu timide, bon, il y aura forcément un frère et une sœur qui, puis dans la conversation, parlera du Seigneur. Ça fait partie des choses possibles, n'est-ce pas? C'est là qu'il y a la complémentarité de l'Église, on n'est pas tout seul. On peut faire effectivement installer régulièrement des réunions de maison à la maison, des réunions de maison chez soi, quoi. Ce qui permet effectivement de savoir à l'avance, et là aussi on peut proposer aux gens, si vous voulez partager des choses sur la foi, on peut partager ensemble, la porte est ouverte. On peut saisir, c'est vrai, dans les conversations, l'occasion des thèmes, des réunions d'église. Mais là encore, j'insiste, il ne faut pas confondre le but et les moyens. Le but, c'est de parler de Jésus. L'église, c'est le moyen de faire connaître le message de l'évangile. Et ce n'est pas un objectif que d'amener les gens à l'église. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de parler de Jésus. Que ce soit chez nous, que ce soit dans la rue, que ce soit tiens, à l'église, parce que ça va les interpeller, que le Seigneur nous mette en alerte. Et si nous avons vraiment à cœur. Et là, c'est pour ça qu'on va maintenant parler de cas qui sont un peu plus particuliers. Si nous avons faim et soif de voir les âmes être sauvées, alors Dieu mettra aussi des choses à cœur. Et chacun aura des idées. Je vais vous donner une série d'idées que des gens ont concrètement fait parce qu'ils l'avaient à cœur. Je connais une dame, par exemple, elle a créé chez elle un atelier de couture. Voilà. Moi j'aime bien coudre. Et puis, ça va être l'occasion d'inviter aussi d'autres amis à venir faire de la couture. Et puis dans cet après-midi, on aura forcément l'occasion de parler du Seigneur. Et cette femme fait un petit atelier de couture qui est en fait l'occasion pour elle de témoigner, de parler avec ses voisins, ses voisines. D'autres ont eu à cœur d'organiser des rencontres musicales sur la base de chants chrétiens. Et en invitant des amis musiciens, ils se donnent l'objectif de chanter que des chants chrétiens. Ou en tout cas, qu'ils ne contrarient pas des chants qui n'ont pas des paroles qui contrarient les valeurs chrétiennes. D'autres ont eu à cœur de faire des ateliers dans les quartiers à l'égard des enfants. D'autres ont eu à cœur de témoigner, de partager la foi au travers du sport. D'autres encore ont eu à cœur d'atteindre des foyers en faisant du soutien scolaire. D'autres encore ont à cœur de soutenir les gens dans la rue, les SDF et les abandonnés de la société. Et au travers de cette assistance, de ce soutien, naturellement dans la conversation, on dit, mais pourquoi vous faites ça? Mais pourquoi tout le système nous abandonne? Pourquoi vous venez là le soir nous donner un bout de sandwich? parce qu'on vous aime. Parce que quelque chose dans mon cœur sait que dans votre vie, tout n'est pas fini. Et voilà, et là on témoigne. Et là on témoigne. Alors chacun aura, je crois, au fond de son cœur, une direction du Seigneur, de l'ordre du possible, comme de l'ordre peut-être que dans quelques exemples, certains vont se dire « Oh, c'est complètement impossible !» Moi, je crois que l'atelier couture, c'est complètement impossible pour ma part. Mais, voyez-vous, je crois que dans le domaine du témoignage, ce qui devrait pourtant être la chose la plus simple, la plus coulante, comprenez ce que je veux dire, hein, pas au sens gastro-entérique, hein, mais au sens naturel du terme, au sens généreux du cœur, ce qui devrait couler de manière la plus simple. Il semblerait qu'il y ait comme un combat spirituel. Et là où il devrait y avoir une simplicité, on s'aperçoit que ça manque peut-être d'audace. Peut-être que ça manque aussi de confiance en nous. Parce qu'on se remet en cause, on ne sait pas, les réactions des gens nous perturbent et on se dit « Mais est-ce que je fais bien ?» Vous savez que cette préoccupation de l'audace, du lâcher prise, de la confiance, du oser se lancer, c'était déjà une préoccupation de Jésus. Je vous invite à tourner quelques pages de votre Bible pour aller dans Luc, chapitre 10. Luc, chapitre 10, verset 1er. Tu peux mettre la diapo d'après, s'il te plaît, Chantal. Je crois que ça va être... Voilà. Priez pour envoyer avec un point d'interrogation, Luc chapitre 10, verset 1er. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, en plus des... Très bien. Et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Vous avez retenu, il les envoya deux à deux. Verset 2, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson de susciter, de créer, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Verset 3. Partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. J'ai souvent entendu ce genre de propos. Oh là là, ça manque d'ouvriers, ça manque de pasteurs. Il faut prier pour que Dieu nous donne des ouvriers. Alors que ce n'est pas du tout la prière de Jésus. Et ce n'est pas non plus du tout l'exemple qu'il a montré. Avant, il a les 70, il en avait déjà 12, il en a choisi encore 70 et il les envoie. Et il dit, priez le maître de la moisson afin que les ouvriers soient envoyés. Et il insiste, et vous là, allez, partez, je vous envoie. La prière que Jésus nous demande de faire n'est pas du tout sur une problématique d'ouvriers. Les ouvriers existent. Les ouvriers existent, les témoins existent. Mais est-ce qu'ils sont envoyés? Est-ce qu'ils vont rentrer dans cette moisson? Est-ce qu'ils vont avoir l'audace? Est-ce qu'ils vont se lancer? Et Jésus nous dit, priez le maître de la moisson afin d'envoyer ces ouvriers. Ils existent, ces ouvriers. Ils ont besoin d'être envoyés, propulsés, lancés, jetés. Et vous mettez tous les mots que vous voulez. Mais allez-y, bon sang! Et c'est ce que dit Jésus au verset. Partez! 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 Vous savez, lorsque vous lisez les évangiles et que vous voyez les différents sujets de prière que Jésus demande à son peuple d'exprimer, ce n'est jamais des prières l'avant-demain. Qu'est-ce que c'est des prières l'avant-demain? On reprend l'exemple. Oh Seigneur, faudrait tellement que les gens connaissent l'évangile. Seigneur, tiens, envoie des ouvriers, envoie des gens qui vont parler de toi. Merci Seigneur, au revoir. En gros, je sais qu'il faut annoncer l'évangile. Je fais ma petite prière qui me lave les mains parce que Dieu va envoyer quelqu'un entre guillemets, à ma place. Et voilà, j'ai fait ma prière. En plus, Seigneur, c'est toi qui l'as demandé. Donc moi, je me lave les mains. J'ai prié pour qu'il y ait des gens qui aillent. Mais tous les sujets de prière, on va prendre l'exemple de Matthieu 6. Tous les sujets de prière que Jésus nous demande de formuler nous ramènent toujours à notre propre responsabilité. Notre Père, qui es aux cieux, que ton règne vienne. Stop. Et comment le règne de Dieu va s'installer sur terre? Par qui? Par nous. Que ton règne, que ta volonté soit faite. Mais, comme ça? Par qui? Par nous. Par ceux qui la connaissent, la volonté, et qui vont la mettre en pratique. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ah, tu vois, là, on peut rien faire. Mais c'est faux. Quand on lit toute la Bible, il parle toujours des paresseux. Des paresseux qui, ah oui, eux, ils veulent pas semer, et puis ils veulent aussi manger, mais il n'y a rien du tout dans leur assiette. Et ils condamnent la paresse. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons. Et là encore, c'est encore plus explicite. Ne nous soumets pas à la tentation. Et pourtant, Jacques va vous nous dire, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Donc partout où il y a des sujets de prière, ce n'est jamais des prières lavement de main. Mais c'est toujours au contraire pour attirer notre attention sur la responsabilité. Et quand il nous dit prier le maître dans la moisson, d'envoyer, ce n'est pas une prière lavement de main. C'est une prière où on doit se dire, mais oh, oh, oh. Prier pour envoyer qui? Et quelle occasion est-ce qu'on pourrait avoir d'envoyer? Et qui et où? Et envoyer à quel moment? Et comment? En fait, le Seigneur nous invite à avoir cette logique de se dire, Seigneur, où est-ce que je peux aller? Seigneur, comment je peux faire? Et c'est ça que Dieu veut que l'on ait dans notre esprit, même dans les dons spirituels. Aspirer aux dons les meilleurs. On dit, oh Seigneur, tu envoies les dons, mais d'un autre côté, il nous demande à nous d'aspirer, de soupirer, d'avoir une projection, de s'attendre à, d'avoir un cœur disposé. Les ouvriers existent. J'en ai quelques-uns sous mes yeux. Mais est-ce qu'on va y aller? Est-ce qu'on va oser? Est-ce qu'on va parler? Est-ce qu'on va dire? Parce que témoigner, c'est ça, c'est dire. Je dis ce qui se passe, tout simplement. Nous devons prier pour que le Seigneur envoie des ouvriers, mais tout en sachant que la première personne concernée par cette prière, ce sera forcément nous. Quand nous prions, les premiers concernés, c'est le prieur. Quand nous formulons une prière à Dieu, on sait que la première zone d'action où Dieu veut agir, c'est dans notre cœur. Alors rappelons-nous de cette prière, effectivement, et que nous puissions nous-mêmes nous envoyer. Je crois de tout cœur aux vertus du témoignage. Les vertus du témoignage, parce que ça affermit nos convictions. Ça affermit nos connaissances dans la parole de Dieu. Ça affermit notre être intérieur. Ça affermit une connaissance de la parole de Dieu. Je crois à la vertu du témoignage dans la vie de prière. Et oui, si on commence à parler du Seigneur autour de nous, ben on a envie que les cœurs soient touchés. Je crois à la vertu du témoignage dans la prière parce qu'on va prier pour que des opportunités s'ouvrent, pour que des occasions se créent. Quand vous lisez l'apôtre Paul, il est en prison, mais il ne demande pas la délivrance. Il dit, Seigneur, priez pour moi pour que des occasions soient favorables, pour que j'annonce l'évangile. Vous lisez Paul, il est tabassé, il est laissé pour mort, et il y retourne encore. Parce que ses prières n'étaient pas focalisées sur « Seigneur, fais-moi du bien, Seigneur, donne-moi ta paix, Seigneur, tu vois, je suis bien à la maison, Seigneur, guéris mon poisson rouge, Seigneur, tu vois, facilite le crédit pour l'auto. » On a droit de prier, on a droit de demander ces choses au Seigneur, mais ce n'est pas une priorité. La priorité, c'est « Seigneur, remplis-moi de toi, Seigneur, sers-toi de moi comme témoin. » Ce sont peut-être les deux raisons de notre vie. Seigneur, remplis-moi de toi, parce que j'ai besoin de toi, parce que de toute façon, je suis un adorateur en esprit et en vérité, c'est ma vocation d'être en relation avec toi, et le face-à-face que j'aurai avec toi va me remplir, va me satisfaire, va me combler, et tu vas m'équiper d'une force d'autorité, de grâce. Mais Seigneur, ouvre des portes pour que je puisse parler à mon voisin, à mon collègue de travail. Seigneur, ouvre des portes pour que peut-être dans la rue, je puisse rencontrer quelqu'un et lui témoigner de l'amour de Jésus. Donne-moi les mots. Et c'est là que, dans la vie de prière aussi, il y a un renouveau. Je crois à la vertu du témoignage pour faire lever ce que nous appelons des ministères. Je crois à la vertu du témoignage pour faire lever du milieu de l'assemblée des hommes sur lesquels peut-être que Dieu va utiliser pour être demain un évangéliste, un pasteur, un enseignant. Je crois à la vertu du témoignage pour mettre en évidence les richesses invisibles aux yeux humains. Quelqu'un qui garde sa bouche fermée. Qu'est-ce que vous pouvez savoir s'il chante ou s'il chante bien ? On peut pas ? Si quelqu'un, si un témoin garde sa bouche fermée, comment est-ce qu'on peut savoir qu'il a reçu une capacité, des dons, une aptitude à enseigner, à communiquer l'évangile, à toucher les cœurs, à avoir peut-être une inspiration prophétique ? Comment ? Je crois à la vertu du témoignage pour faire lever du milieu du peuple de Dieu, des enseignants, des prédicateurs. Et d'ailleurs, c'était même dans la logique de Paul. Un petit peu d'histoire. On voit Paul qui annonce l'évangile de lieu en lieu. Et voilà qu'il y a des conversions. Alors, il avait deux manières de faire. Là où il y avait beaucoup de juifs qui se convertissaient, alors il établissait des anciens, c'est-à-dire des responsables d'église. Et pourquoi est-ce qu'on voit qu'il fait ça assez rapidement ? Parce que en fait, les juifs, c'était déjà des gens qui étaient instruits de la parole de Dieu. Tout ce qu'ils avaient besoin de comprendre, c'est que toute la parole parle de Christ. Et une fois que les cœurs étaient convertis, ils connaissaient déjà la Bible. Ils avaient juste besoin du filtre de Jésus pour que tout ça, ça devienne clair. Donc c'était déjà des gens qui étaient enseignés, qui connaissaient la parole de Dieu. Ils avaient juste besoin de réaliser et d'annoncer que ce qui était annoncé d'avance, ça se concrétise en Jésus. Donc il y avait déjà des hommes formés. Et il établissait ainsi des anciens. Et ils pouvaient partir parce qu'ils savaient que ces anciens témoigneraient, continueraient de communiquer la bonne nouvelle. Quand il y avait d'autres contextes, des contextes qu'on n'a pas dire païens, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas juifs, des Grecs et d'autres civilisations plutôt polythéistes, bref, des gens qui ne connaissaient pas la parole de Dieu. Alors Paul, s'il ne pouvait pas lui-même rester sur place enseigner, il envoyait des collaborateurs, on en connaît un fameux, il s'appelle Timothée. Il disait, voilà, je t'envoie dans ce lieu. Et c'est ce qu'on peut lire en 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, toi Timothée, confie-le à des hommes fidèles qui soient aussi capables de le communiquer, de l'enseigner à d'autres. On comprend la logique ? Un témoin qui raconte à un autre témoin, qui va raconter à un autre témoin, qui va raconter à un autre témoin. Et c'est ça la logique que nous devrions adopter. Et c'est en ce sens-là que je dis que je crois à la vertu du témoignage. Parce que si chaque chrétien commence à témoigner, on va avoir des dons, on va avoir des qualités, on va avoir des feux qui vont brûler, on va avoir des ministères qui vont grandir. Ça commencera effectivement, peut-être par un premier contact, dans une maison, un cœur qui va brûler et qui va vouloir inviter 2-3 personnes. Et là, on va voir qu'il y a une œuvre de Dieu qui se fait. Peut-être que pour certains, ils n'auront pas plus de capacité que ça. Alors, c'est pas grave, on invitera quelqu'un d'autre qui lui a peut-être reçu du Seigneur plus facilement dans l'évangélisation ou dans l'enseignement. Et ainsi de suite. Et l'apprentissage avec le Seigneur, c'est sur le terrain. C'est en forgeant qu'on devient... C'est en témoignant qu'on devient évangéliste et pas l'inverse. C'est pourquoi je vous disais, ne faisons pas de l'évangélisation, ça n'a pas de sens. Témoignons. Et si nous témoignons, nous verrons au milieu de nous des évangélistes se lever. On verra des dons se lever. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure que c'est important de laisser également le Seigneur déposer ses projets sur les cœurs. Moi, j'ai rencontré des gens, ils étaient dans l'incapacité de bien parler du Seigneur aux gens. Ils se sentaient maladroits, ils se sentaient hésitants. Et puis voilà qu'ils ont eu à cœur de s'occuper des enfants. Et aujourd'hui, ils s'occupent de dizaines, de centaines d'enfants dans les rues. Ils auraient été incapables de témoigner de l'évangile à quelqu'un de 30 ans, 40 ans. Mais par contre, auprès des enfants, paf, la grâce de Dieu est là. Et le Seigneur se sert d'eux pour annoncer l'évangile et de toucher les cœurs. Et les exemples seraient multiples comme ça. Vous savez, c'est... Les vocations naissent par stimulation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez un sport. Le sport national en France, ce serait quoi? Plutôt le foot, hein? C'est pour ça qu'on a plein de champions de foot en France. Enfin, plein. Bon, on a des champions, quoi. On en a plus, en tout cas, que, je sais pas, que des boxeurs. Eh oui! Vous connaissez beaucoup de noms de boxeurs français, vous? Et pourtant, il y en a. Mais comme c'est pas du tout culturel en France, ils sont très peu connus. Moi, je n'ai connu un. Il était même médaillé, reconnu et titré par la reine d'Angleterre, alors que le gars, il était français. Mais en France, on considère la boxe comme un sport violent, nul, dégradant, de rue. Alors, pas trop de distinction. Mais c'est quoi la différence entre le foot et la boxe? Mais parce qu'en France, on fait plein de pubs pour le foot. Alors, il y a plein de jeunes qui font du foot, et dans cette quantité, eh ben, on voit des dons qui émergent. Mais si on leur avait jamais mis des crampons aux pieds, peut-être que Zinedine Zidane n'aurait jamais fait de foot. Et on n'aurait pas été champion. Mais c'est de la même manière. Si y a peu de gens qui sont stimulés à faire de la boxe, s'il y a peu de jeunes qui s'exercent à la boxe, alors jamais ils sauront qu'ils ont peut-être une compétence, une force, une aptitude à la boxe. Et donc, on se prive peut-être de futurs champions. C'est pareil au milieu du peuple de Dieu. Je crois à la vertu du témoignage pour mettre en évidence les dons que les uns ont certainement reçus de la part du Seigneur et que nous-mêmes, nous allons découvrir. Comment témoigner? Et ce sera le dernier point. Soyons simples. Soyons simples, soyons nous-mêmes. Je reviens à la base. Le témoignage, c'est tout simplement raconter ce que Jésus a fait. Plus nous aurons une relation avec le Seigneur, plus nous vivrons des choses avec lui, plus nous entendrons parler de la gloire qui se manifeste à gauche, à droite, et plus nous aurons la bouche spontanée à parler. Soyez rassurés. Il n'y a pas de technique. Il n'y a pas de manière de faire. Il faut être soi-même. Il faut être vrai, il faut être authentique, il faut être doux. Alors pourquoi est-ce que je dis doux? Parce que je vais vous lire quelques versets. Conduisez-vous, Colossiens chapitre 4, verset 5, pour ceux qui prennent des notes, Colossiens 4, 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Ne manquez pas les occasions. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. Il faut qu'il y ait dans notre bouche voilà, de cette abondance, de ce goût, de cette grâce. 2 Timothée chapitre 4, verset 2. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Favorable ou non, reprends, censure, exhorte. Mais avec toute douceur et en instruisant. Il faut cet équilibre. On n'est là pas comme des gens, on sait tout à la place des autres. Oh là 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 là, ceux-là, de toute façon, on n'a pas envie de les écouter de toute façon. Mais on a envie de témoigner. On dit, on exhorte, on encourage. Avec douceur. Et puis surtout, non pas pour donner des leçons, mais pour encourager, pour enseigner, pour stimuler. 1 Pierre, chapitre 3, verset 15. Soyez toujours prêts. Soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Il faut avoir un état de cœur disposé, disponible. C'est pour ça que je disais aussi que je crois à la vertu du témoignage dans la prière. Parce qu'on va prier, Seigneur, ouvre des portes. Seigneur, trouve-moi disponible. Trouve-moi comme un ouvrier prêt à réagir à la tâche à laquelle tu m'appelles. Et le dernier verset, 1 Pierre chapitre 2, verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Mes bien-aimés, vous allez témoigner avec simplicité, avec douceur, avec assurance, et les gens vont se moquer de vous.
Eh oui.
Ah, vous êtes plein d'enthousiasme, plein de désir. Tu sais, le Seigneur, il peut te guérir. Tu sais, le Seigneur, il a fait ça dans ma vie. Pouh, tu crois encore à ces trucs-là, toi? Ne me dis pas que tu vas à l'église, quand même.
Bah si, tous les dimanches.
Oh là 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 là, mais c'est n'importe quoi. Bien sûr qu'ils vont vous calomnier, bien sûr qu'ils vont se moquer de vous. Je n'ai pas lu le verset, mais c'est Jésus qui nous dit qu'il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Si, on l'a lu tout à l'heure, c'est en Luc 10. Donc on le sait. Mais ne vous fiez pas à ce que les gens disent. Pierre le dit. Afin que là même où il vous calomnie, il remarque vos bonnes œuvres. Vous savez, c'est facile pour le moqueur de se moquer. C'est une manière de se protéger. C'est une manière d'éviter de se remettre en cause. Mais un moqueur, même si là-dedans, là, il est un peu tortueux, il a des yeux pour voir. Et il y a toujours une part de sa conscience qui va dire Ouais, je souris avec les lèvres, mais au fond de mon cœur, je sais que ce qu'il me dit là, ça me travaille, ça me touche. Et puis, comme la parole de Dieu nous invite, ayez une bonne conduite. Bien sûr, si notre comportement n'est pas en adéquation avec ce que l'on prêche, alors ne soyons pas surpris que les cœurs ne soient pas touchés. Et peut-être que c'est légitime que les gens se moquent de nous, et là, je donne même mon crédit à ces moqueurs-là. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Et il faut que nous ayons effectivement l'attitude, l'état d'esprit. Mais je ne vais pas revenir dessus, pour moi c'est un acquis, nous sommes déjà remplis, et nous cultivons la grâce de Dieu. Mais ça n'empêchera pas les gens de se moquer de vous, ça c'est normal, de moi, amen, moquez-vous. Mais les gens savent, ils voient. Les gens ne sont pas dupes. Les gens sont des moqueurs, c'est vrai. Les gens sont hypocrites, c'est vrai. Mais ils voient quand on témoigne de quelque chose de vrai. Ils sentent quand ce que l'on dit, ça sort du cœur ou que si c'est juste un blabla religieux. Nous ne nous y trompons pas. Alors, nous ne sommes pas impressionnés par eux, par leur raillerie, par leur moquerie. C'est leur job, c'est leur boulot. Juste une question. Vous n'étiez pas des moqueurs, vous, avant? Mais le jour où notre cœur a été touché, le jour où on a été visité par le Seigneur, alors on a rendu grâce à Dieu. Et on a reconnu que tout ça, c'était que du fanfaronnage, que de l'hypocrisie, qu'une manière, une apparence, une façade. Mais nous continuons à apporter, à témoigner avec douceur, avec zèle, avec entrain, avec prière, avec piété, c'est indispensable. Et le jour où Dieu les visitera, alors ils rendront gloire à Dieu. Amen.